Il est 13h sur France Inter. Et Cécile Bidot nous présente le journal. Bonjour.
Bonjour. Du bronze qui vaut de l'or aux Jeux Olympiques de Tokyo. Simone Biles a vaincu ses démons. La gymnaste américaine avait déclaré forfait depuis le début de ses JO. Trop de pression et de dangereux vertiges. Elle retrouve l'équilibre sur la poutre. Nous sommes à Tokyo dès le début de ce journal et nous suivons le perchiste français Renaud Lavillenie en pleine finale. Alors que la quatrième vague de Covid-19 provoque des tensions à l'hôpital en France et un reconfinement en Guadeloupe, en Chine, 11 millions de personnes vont être testées. Le variant Delta a fait son apparition à Wuhan, la ville où tout a commencé. Dans ce journal, nous évoquons les ambitions de Sanofi. Le groupe pharmaceutique français rachète une entreprise américaine pour développer les vaccins à ARN messager. Nous serons également en Ukraine où un opposant au régime biélorusse a été retrouvé mort. Les soupçons pèsent sur le régime de Loukachenko. Dans les Ardennes, où les habitants de Revin espéraient l'installation d'une entreprise de vélos et les emplois qui vont avec. Et puis quand les robots déposent des brevets, l'intelligence artificielle va bien finir par nous remplacer.
France Inter.
On commence donc avec le happy end du feuilleton Simone Biles aux Jeux Olympiques de Tokyo. Après s'être mise en retrait pendant une semaine et manquer 5 finales, la gymnaste américaine signe un retour en bronze. Elle termine 3e de la finale de la poutre. Alors ce n'est pas tant la couleur de la médaille qui est importante, mais la force mentale dont elle a fait preuve. Simone Biles souffrait depuis le début de ses JO de vertige, qu'on appelle perte de figure en gymnastique. On imagine donc la pression sur ses épaules au moment d'effectuer son premier saut sur la poutre. Farida Noir, vous êtes à Tokyo pour France Inter. Bonjour.
Bonjour.
Et c'est donc un retour réussi pour Simone Biles.
Oui, un retour en bronze pour son comeback comme au JO de Rio en 2016 sur la poutre. L'américaine était victime de quelques déséquilibres, mais elle a parfaitement réussi ses figures, son salto. La gymnaste chaudement applaudie sur la poutre et acclamée après s'être réceptionnée sur le tapis. Elle a couru dans les bras de sa coach pour la serrer fort. On l'a vu avec un grand sourire. Simone Biles en bronze donc, mais sa grande victoire, c'est finalement ce retour dans la compétition après 4 forfaits. Elle, qu'il y a encore quelques jours, confiait ne plus avoir la tête et l'esprit synchronisés. Elle repart donc avec une médaille, mais elle ne se sent pas encore tout à fait bien. C'est ce qu'elle confie après le podium. Mentalement, je sais que je dois travailler, dit-elle, régler des choses quand je rentrerai chez moi, mais physiquement, je me sens en forme. J'étais excitée de revenir, d'honorer et de porter cette médaille, mais la santé mentale est ce qu'il y a le plus important. Je n'avais jamais été aussi mal, il ne faut pas avoir honte de demander de l'aide. Simone Biles qui totalise donc 2 médailles en tout dans ces Jeux, en argent par équipe et celle-ci aujourd'hui en bronze, loin des 6 qu'elle s'était fixée pour objectif en arrivant ici à Tokyo.
Merci Farida Noir en direct de Tokyo. La grande chance de médaille française aujourd'hui est entre les mains du perchiste Renaud Lavillenie. Il dispute en ce moment la finale, la 3e finale olympique de sa carrière. Blessé à la cheville, il fait cette fois figure d'outsider. Jérôme Val, ça a commencé comment pour Lavillenie ?
Bah écoutez, c'est une soirée ici à Tokyo qui peut ressembler à un scénario catastrophe pour Renaud Lavillenie. Vous l'avez rappelé, il est arrivé ici au Japon blessé, cette cheville gauche endolorie. C'est sa cheville d'impulsion et donc forcément un handicap important pour lui. Et on l'a vu tout à l'heure lors de l'échauffement retomber sur cette cheville. Il a eu du mal à se relever. On l'a vu rentrer avant cette finale sur ce sautoir avec le masque, vraiment aucun sourire. Il pensait déjà peut-être que c'était perdu. Il a fait l'impasse sur le premier saut, la première barre à 5,55 m. Et puis première tentative de la soirée pour lui à 5,70 m, tentative réussie pour Renaud Lavillenie qui a passé aisément cette barre, mais tout de suite après il est allé au bord de la piste rejoindre son entraîneur. Il s'est enfoui la tête dans une serviette pour pleurer, lâcher les larmes, sans doute conscient que ça serait impossible pour lui d'aller chercher une 3e médaille olympique ici à Tokyo. On va voir la suite du concours évidemment, mais ça paraît compliqué pour Renaud Lavillenie, trop handicapé par cette satanée cheville.
Et on suivra ça bien sûr avec vous Jérôme Val depuis Tokyo et avec toutes les équipes mobilisées de Radio France sur place. Le monde de l'athlétisme remué ce matin par les performances sur 400 mètres haies. Le Norvégien Carsten Warholm décroche l'or et pulvérise le record du monde en 45 secondes et 94 centièmes à un cheveu de son poursuivant l'Américain Ray Benjamin. Commentaire tout en nuances de ce dernier, ça a été la plus grande course de l'histoire des Jeux Olympiques. En cyclisme sur piste, la France remporte une médaille de bronze en vitesse par équipe. Les basketteurs français sont qualifiés pour les demi-finales après leur victoire sur l'Italie 84-75. C'est la première fois depuis 20 ans que l'équipe de France atteint ce niveau de la compétition au JO. C'est le berceau de la pandémie mondiale de Covid-19. La ville de Wuhan en Chine, qui pensait avoir éradiqué le virus, est rattrapée par le variant Delta. 400 contaminations ont été recensées ces trois dernières semaines et les 11 millions d'habitants vont être dépistés. Même si la reprise épidémique reste limitée, les autorités chinoises emploient les grands moyens. À Pékin pour France Inter, Stéphane Pambrin.
Fidèle à sa stratégie, Pékin ne prend aucun risque et va dépister les 11 millions d'habitants de Wuhan. Même opération gigantesque mise en place en ce moment dans la ville de Jiangzhou, juste à côté, et à Nanjing, plus au sud. Au total, plus d'une douzaine de villes sont concernées, dont Chongqing, 31 millions d'habitants, l'une des plus grandes métropoles du monde, et Pékin, la capitale, où les autorités appellent les habitants à ne pas quitter la ville et ont remis en place des mesures de confinement, les premières depuis 6 mois. Cette nouvelle vague aurait commencé à l'aéroport de Nanjing, où du personnel d'entretien a été contaminé en travaillant sur un avion en provenance de Russie. Depuis, le virus s'est répandu dans tout le pays, plus de 400 cas essentiellement liés au variant Delta selon les derniers chiffres. Mais ce qui inquiète le plus les autorités, c'est que la plupart de ces malades étaient pourtant vaccinés avec l'un des vaccins chinois. Les autorités envisagent maintenant de proposer une troisième injection en Chine où plus d'1,6 milliard de doses ont déjà été injectées. Pékin, Stéphane Pambrin, France Inter.
En France, le variant Delta pèse sur le système de santé. 688 malades du Covid ont été hospitalisés ces dernières 24 heures. On n'avait pas connu de tels chiffres depuis la fin mai. L'un des leviers pour faire redescendre cette quatrième vague, c'est aussi le dépistage. Avec ce fameux principe édicté par le gouvernement, tester, tracer, isoler. Cela permet d'identifier des cas contacts et d'éviter qu'ils ne contaminent à leur tour. Mais en cette période estivale, la chaîne de transmission est de plus en plus difficile à remonter, Marion Ferrer.
Et ça se reflète directement dans les chiffres de l'assurance maladie. En Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple, mi-juillet, 97% des cas contacts ont été appelés. Une semaine plus tard, seulement 76. Tendance qu'on retrouve en Bourgogne-Franche-Comté, en Île-de-France ou encore en Aquitaine. Raison principale pour Frédéric Moisan, épidémiologiste à Santé publique France, les départs en vacances.
Il est plus difficile de contacter les cas qui bougent, qui ne sont pas forcément à leur domicile.
Problème aussi avec l'été, les mesures de restriction ont été assouplies.
Un bar ou aux boîtes de nuit, où là, voilà, le cas ne connaît pas forcément l'identité des contacts, il ne va donc pas pouvoir le fournir à l'assurance maladie.
Une quatrième vague qui concerne plus de jeunes, moins enclins à désigner leurs camarades de soirée, et encore plus quand ils les pensent vaccinés.
On ne connaît pas forcément le statut vaccinal des personnes autour de nous. Est-ce qu'elle en est à sa première dose, à sa deuxième dose? Donc tout ce travail de vérification, il est réalisé par l'assurance maladie. Donc il est important que vraiment tout le monde n'hésite surtout pas à donner l'ensemble des gens qu'ils ont côtoyés avant tout pour protéger ces personnes-là et leur entourage.
Difficile aussi pour l'assurance maladie de suivre la courbe des contaminations. Il faut joindre plus de 120 000 personnes par semaine. Un travail minutieux effectué par 7 000 agents. Au pic de la deuxième vague, ils étaient 2 fois plus.
En Guadeloupe, la situation est catastrophique. Selon les mots du préfet, le nombre de cas a été multiplié par 10 en 3 semaines. Alors comme en Martinique et à La Réunion, les habitants vont être reconfinés. Les restrictions de déplacement commencent demain soir et pour au moins 3 semaines. Les commerces restent ouverts, les restaurants uniquement le midi. Les bars sont contraints de fermer leurs portes. Sur les plages, seule une présence dynamique est autorisée, c'est-à-dire pour se baigner ou faire du sport. En Guadeloupe, un habitant sur 3 seulement a reçu une première dose de vaccin quand la moyenne nationale est à 63%. Sur France Inter ce matin, la présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, Valérie Rabault, remet sur la table le délicat sujet de la vaccination obligatoire. Il faut une règle claire, dit-elle. La vaccination doit être obligatoire pour tous les adultes afin d'atteindre l'immunité collective. Son interview est à écouter sur franceinter.fr. Ces vaccins contre le Covid-19 ne sont toujours pas français. Pfizer, Moderna, AstraZeneca, ils sont tous issus de la recherche à l'étranger. Le français Sanofi se lance dans la technologie de l'ARN messager aujourd'hui. Le groupe a annoncé ce matin qu'il rachetait un spécialiste en la matière, l'américain Translate Bio. Une transaction de 2,7 milliards d'euros. Bonjour Manuel Ruffez.
Bonjour.
Sanofi ne veut pas rater le tournant de l'ARN messager pour le Covid, mais pas seulement.
Voilà, c'est ça. Cette fois, il ne faut pas rater le coche et se mettre à l'abri pour le futur. futur. Voilà ce que nous disent en interne notamment les représentants syndicaux de Sanofi. Parce que l'ARN messager, ce n'est pas que le vaccin effectivement contre le Covid. Sanofi développe déjà avec Translate Bio un vaccin contre la grippe saisonnière, mais c'est également très prometteur pour le traitement de différents types de cancers, de la mucoviscidose, de maladies pulmonaires rares et dans le domaine plus général de l'immunologie. Il n'y a plus de doute possible, l'ARN messager est devenu plus qu'incontournable. Sanofi a annoncé déjà un investissement de 2 milliards d'euros d'ici 2025, avec notamment la création d'un centre de recherche spécialisé. Et là, banco, Sanofi rachète en totalité l'entreprise américaine Translate Bio pour effectivement 2,7 milliards d'euros. C'est une grosse somme, mais Sanofi a largement les moyens en piochant dans sa trésorerie disponible. La stratégie et l'approche scientifique sont bonnes, analyse pour conclure le syndicat Force Ouvrière de Sanofi. C'est autre chose du point de vue social, regrette FO. Sanofi a supprimé 1000 postes ces deux dernières années en France, 5000 en tout ces 5 dernières années, selon la comptabilité du syndicat.
Manuel Ruffès du service économie de France Inter. Être ou ne pas être vacciné, cela peut déterminer la validité de votre passe sanitaire. Si le Conseil constitutionnel donne son feu vert à son extension jeudi, il faudra le présenter pour aller au restaurant ou dans un bar, y compris en terrasse. Certains professionnels se refusent à contrôler leurs clients et ferment leurs portes, un signe de contestation. Reportage dans l'Indre à Aiguzon de Jérôme Collin.
Aucune casserole sur le feu en cuisine. Depuis dimanche soir, l'activité est à l'arrêt au restaurant le 27. Nathalie Cugnot, la co-gérante, proteste contre le pass sanitaire.
La santé des gens ne nous regarde pas. S'ils n'ont pas envie de se faire vacciner, s'ils veulent se faire vacciner, on dit oui, les gens sont contre la vaccination. Mais non, c'est pas ça. C'est à un moment donné, il faut retrouver notre liberté.
Pour son mari, Éric Cugnot, hors de question de contrôler les clients.
On peut pas tout le temps changer la règle du jeu et nous imposer des choses inacceptables. C'est pas le rôle du citoyen d'aller contrôler un autre citoyen. Ou alors on devient des policiers.
À ce sujet, la défenseur des droits, elle-même s'inquiète d'une forme de pouvoir de police qui serait accordée à n'importe qui. En décidant de fermer, Nathalie et Eric font une croix sur la cinquantaine de couverts en pleine période touristique.
Clairement, on n'est pas gagnant. Hein. Bah, on gagne plus un rond. Hein. Mais en fait, si tous les restaurants faisaient ça, les gens réagiraient un peu différemment aussi.
Si le Conseil constitutionnel approuve tout ce qui s'est passé, je ne rouvrirai pas. C'est pas possible.
Parmi les habitants d'Aiguzon, les avis sont partagés.
C'est pas leur boulot d'aller contrôler des passes, c'est tout. S'il faut vérifier tout le monde, alors le premier leur aura, le deuxième leur a oublié, ou il sera chez lui.
Les variants sont quand même très contaminants. Moi, ça me paraît normal de présenter le pass sanitaire. Je trouve que c'est plutôt rassurant aussi.
Un autre restaurant d'Aiguzon, le Cottage, annonce aussi sa volonté de fermer ses portes à partir du 9 août, date théorique de l'entrée en vigueur du pass sanitaire.
Jérôme Collin de France Bleu Berry.
France Inter, le journal de 13h. Cécile Bideau.
Nous vous parlions hier de cet athlète biélorusse qui a fui son pays à la faveur des Jeux Olympiques. Ce midi, une autre histoire digne d'un roman d'espionnage montre la terreur que fait régner le régime d'Alexandre Loukachenko. Un opposant qui avait trouvé refuge en Ukraine a été retrouvé mort hier, pendu dans un parc de Kiev où il était sorti faire son jogging. Ce militant avait quitté la Biélorussie après avoir participé à des manifestations anti-gouvernementales l'an dernier. Son entourage dénonce un meurtre politique. À Kiev, les précisions de Stéphane Siouan.
Vitali Chichov était parti lundi matin faire son jogging dans le centre de Kiev. Il n'en est jamais revenu. La disparition a d'abord inquiété ses proches et ce mardi matin, les autorités ukrainiennes ont annoncé que le corps du jeune homme, âgé de 26 ans, avait été retrouvé pendu dans un parc de la capitale, non loin de son immeuble. La police ukrainienne a ouvert une enquête évoquant ouvertement la possibilité d'un meurtre déguisé en suicide. Aujourd'hui, la stupeur et la colère règnent dans la communauté des réfugiés biélorusses en Ukraine. Vitali Chichov était suivi et surveillé, assurent les responsables de la Maison biélorusse, cette ONG qui organise l'accueil en Ukraine pour des centaines de candidats à l'exil. Pour les amis de la victime, il ne fait aucun doute. Il s'agit là d'une liquidation planifiée dans laquelle il voit la main du KGB biélorusse. Un signe que désormais, la répression de la contestation à Alexandre Loukachenko s'étend et ne connaît plus de frontières. Stéphane Siouan à Kiev pour France Inter.
Le nouveau président iranien promet la levée des sanctions américaines. Ebrahim Raisi a pris officiellement ses fonctions ce matin. Il a été investi après l'approbation de son élection par l'ayatollah Khamenei. Cet ultra-conservateur a axé son premier discours sur l'économie. L'Iran est confronté à une crise profonde due notamment au rétablissement des sanctions par les États-Unis en 2018. Au Liban, un an après l'explosion dans le port de Beyrouth, minutes. Les mots sont sévères pour qualifier le comportement des autorités. Human Rights Watch les accuse de négligence criminelle dans son rapport publié aujourd'hui. L'ONG estime que le gouvernement fait barrage à l'enquête sur les causes du drame. Des centaines de tonnes de nitrate d'ammonium stockées dans un entrepôt ont explosé, faisant 214 morts et plus de 6000 blessés. Le faux départ des cycles Mercier dans les Ardennes. À Revin, une ville de 6000 habitants près de Charleville-Mézières, citoyens et élus ont manifesté ce matin. Le fabricant de bicyclettes connu pour avoir équipé Raymond Poulidor devait y relocaliser ses activités, ne plus produire en Asie mais en France, où le marché du vélo est en pleine croissance. Près de 200 emplois devaient voir le jour. L'État s'était engagé. Un chèque de 5 millions d'euros promis par la ministre de la Cohésion des Territoires venue sur place. Mais la semaine dernière, Bercy a rétropédalé. Plus question d'aider Mercier. Le gouvernement dit avoir des doutes sur son honnêteté et l'accuse notamment d'avoir contourné des règles douanières. Revin se mobilise aujourd'hui pour récupérer les emplois promis. Alexandre Blanc, vous êtes sur place. Bonjour.
Bonjour.
Et la population est dans l'incompréhension.
Oui, la population a pensé que c'était Noël avant l'heure, lâche le maire de Revin, Daniel Durbecq, car 270 emplois dans une ancienne ville ouvrière touchée par la désindustrialisation et qui compte 27% de chômeurs, c'était évidemment une grosse attente. Pôle emploi avait même démarré les pré-embauches. Des fonds avaient déjà été engagés par les collectivités locales pour aménager l'ancienne friche. Jacqueline Gourault, vous l'avez dit, la ministre de la Cohésion des Territoires, était venue visiter le site en mars. Et puis l'État décide finalement la semaine dernière de ne pas soutenir financièrement ce projet à 15 millions d'euros. On a travaillé un an pour rien, se désole le maire de Revin. Les raisons de ce désengagement sont d'abord restées obscures et puis le cabinet de la ministre de l'Industrie a fini par donner des détails aux élus hier soir par téléphone, ce qui a refroidi l'État. Ce sont des soupçons a priori anciens de détournement de droits anti-dumping et de blanchiment d'argent via des sociétés offshore, des soupçons qui n'ont jamais conduit à une condamnation et dont l'investisseur se défend. On aurait pu se renseigner avant, s'insurge le président de la communauté de communes Ardennes-Rive-de-Meuse. Ce matin, de nombreux habitants se sont également exprimés au micro pour dire leur désarroi, leur espoir déçu. Ce qu'attendent maintenant les élus, c'est que l'État propose un autre projet industriel de même envergure pour Revin.
Alexandre Blanc de France Bleu Champagne en direct de Revin. Les bons résultats de Stellantis malgré la crise. Le groupe automobile né de la fusion entre PSA et Fiat Chrysler annonce aujourd'hui avoir enregistré un bénéfice net de 6 milliards d'euros au premier semestre. Son chiffre d'affaires a été multiplié par 4 en un an. Si ce n'est pas de la science-fiction, ça y ressemble. Pour la première fois au monde, une intelligence artificielle a été reconnue comme inventeur. Ça se passe en Afrique du Sud. L'ordinateur, qui répond au petit nom de Dabus, a conçu sans intervention humaine un récipient alimentaire pour mieux conserver la chaleur. Alors ce n'est pas l'invention en soi qui est révolutionnaire, mais le fait qu'elle ait été brevetée. Jusqu'ici, on considérait qu'il fallait nécessairement la main de l'homme pour qu'il y ait brevet. L'humain est en train de laisser la place à la machine, selon Alexandra Mendoza-Caminade, professeure de droit privé à l'Université de Toulouse, un Capitole.
Avec ce qu'on appelle le deep learning, l'apprentissage profond, elles apprennent de manière indépendante et autonome désormais, et donc elles sont capables effectivement de prendre des décisions. Dabus, qui est l'intelligence artificielle concernée par le brevet sud-africain, pose des questionnements en termes de place de l'homme par rapport à la machine, parce que elles ont cette aptitude, cette capacité, en l'occurrence, à avoir fait une invention de manière autonome. Donc on ne peut pas considérer que la main de l'homme a participé à cette invention. Donc, dans cette décision qui fait suite à un processus un peu militant du demandeur qui avait présenté d'autres demandes devant d'autres offices dans d'autres pays, on est arrivé en quelque sorte au bout de la logique, ce qui est quand même assez perturbant pour nous, parce que la création, jusqu'à présent, elle a toujours mis l'être humain au centre du processus.
Propos recueillis par Béatrice Duguay.
La météo avec Hello Business, la nouvelle offre bancaire dédiée aux indépendants par Hello Bank. Plus d'infos sur hellobankpro.fr. Hello Bank est l'offre 100% digitale de BNP Paribas.
Et Sébastien Léas, vous nous annoncez encore l'arrivée d'une perturbation par l'ouest.
Oui, il pleut en ce moment entre les pays de la Loire, le nord de la Nouvelle-Aquitaine et le Berry. Cet après-midi, les nuages vont s'engouffrer sur toutes les régions, entre les bords de la Seine, les rives de la Garonne jusqu'au centre-est, avec parfois des pluies faibles et généralement intermittentes, mais des pluies plus régulières arriveront par la façade atlantique en fin de journée. La nuit s'annonce d'ailleurs bien pluvieuse sur le quart sud-ouest, sur les Hauts-de-France et le quart nord-est. L'après-midi sera capricieux avec des éclaircies, mais aussi des averses locales orageuse. On a d'ailleurs de l'orage en ce moment du côté de la Moselle. Les éclaircies seront plus timides entre la Normandie et le bassin parisien, ainsi qu'au sud de la Garonne, mais les averses seront quand même rares. Et puis le temps sera nettement plus lumineux et ensoleillé autour de la Méditerranée. Du côté des températures, on reste dans la fraîcheur, 17 à 25 degrés, avec 26 à 31 degrés autour de la Méditerranée, et jusqu'à 34 degrés dans le Var.
Sébastien Léas de Météo France.